Bonsoir. Plusieurs réactions sont enregistrées après la décision du chef de l'État suspendant l'installation des sénateurs nouvellement élus et reportant au Sénégué l'élection des gouverneurs. Pour le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, l'intérêt institutionnel n'a pas qualité de prendre une telle décision. Position soutenue également par l'AMUKA. Cependant, CAP pour le changement salue la décision du président de la République. Quelle lecture faire des positions de ces différents regroupements politiques? C'est le thème du dialogue entre Congolais de ce mardi 19 mars 2019. Pour en parler, je reçois, excusez-moi, dans cette émission pour les débats, Maître Crispin Mukendi. Il est mandataire adjoint de l'UDPS à la CENI et membre de la centrale électorale de l'UDPS. Maître Mukendi, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Docteur Didi Malara, député national et cadre du FCC. Il est secrétaire national du PPRD, chargé du processus excusez-moi, électoral et des relations avec les institutions d'appui à la démocratie. Docteur Didi Malara, bonsoir.
Bonsoir madame, je salue les auditeurs de la radio de la paix, mais j'en profite aussi pour saluer la population du territoire de Kasongo qui vient de jeter encore une fois sont dévolus sur Mamadou cette personne à la députation nationale.
Merci. Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule politologique en Afrique centrale. Bonsoir, professeur.
Bonsoir, madame, et bonsoir aux auditeurs de Radio Capi.
Merci de nous suivre par ton RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Comme je l'ai dit dans mon introduction, plusieurs réactions sont enregistrées après la décision du chef de l'État suspendant l'installation des sénateurs nouvellement élus et reportant sine die l'élection du gouverneur. Alain Irung pour les détails.
En termes de réaction, l'Union pour la démocratie et le progrès social, par le canal de son secrétaire général Augustin Kabuya, salue la mesure prise par cette réunion interinstitutionnelle. De son côté, le Front commun pour le Congo salue aussi la volonté du président de la République de mettre fin à la fraude et à la corruption. Son porte-parole Aimé Kilolo rappelle cependant que la réunion interinstitutionnelle n'est pas le cadre où se prennent les décisions en dehors des orientations politiques. Il encourage la justice à faire son travail en toute indépendance et appelle au respect strict de la Constitution. Aimé Kilolo précise que ces mesures du chef de l'État ne donnent lieu à aucune crise entre CACH et le FCC. Pour sa part, la coalition Lamouka, qui a soutenu la candidature de Martin Fayoulou, estime que l'instance qui a pris la décision de repousser les élections des gouverneurs n'a pas qualité du point de vue juridique. Valentin Guéringo, son porte-parole, ajoute que les deux partenaires FCC et CACH devraient plutôt s'entendre au lieu de violer la Constitution.
Merci Alain pour tous ces détails. Maître Crispin Mukendi, je rappelle que vous êtes mandataire adjoint de l'UDPS à la CENI et membre de la centrale électorale de l'UDPS. Comment vous réagissez à la proposition ou au propos du FCC qui estime que le cadre de concertation n'a pas qualité ou le chef de l'État n'a pas qualité de prendre une telle décision par rapport au report de l'élection des gouverneurs et l'installation des sénateurs nouvellement élus?
Merci madame pour l'invitation. Mon intervention est axée sur deux points. Le premier point, c'est d'abord les contextes dans lesquels le mésir qui ont mis mal à l'aise certains partenaires ont été prises. Dans quel contexte? Ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est le fondement légal de ces mesures-là. Le premier point, comme je dis, les contextes dans lesquels la réunion interinstitutionnelle s'est tenue, c'est dans les contextes de la corruption dénoncée et décriée par tous les peuples congolais, relayée par des personnalités pas les moindres je citerai deux anciens premiers ministres qui ont décrié la corruption avant, bien sûr, la tenue de ces élections-là. Deux anciens premiers ministres ont dénoncé la corruption.
Mais pourquoi la décision n'avait pas été prise en ce moment-là, avant les élections?
J'en arrive. Après eux, il y a eu les conseillers spéciaux de l'ancien chef de l'État, qui lui est allé plus loin, il a écrit pour dénoncer, en dehors de l'ancien ou du conseil spécial de l'ancien chef de l'État, il y a eu également une personnalité pas la moindre, c'est l'ancien président du conseil supérieur, l'ancien président du conseil judiciaire. Toutes ces personnalités-là ont dénoncé la corruption. Dans ce contexte, le maître de l'action publique, qui est le procureur général près la Cour de cassation, a pris une bonne décision de demandant à la CENI de succoire à l'élection de l'élection. À l'organisation de l'élection. La CENI s'est entêtée dans le contexte et l'a organisé cette élection-là. C'est à la suite de l'organisation de cette élection que tout le monde a vu comment la corruption a été planifiée, organisée, parce qu'elle a été à ce niveau-là aussi, dénoncée par tout le monde.
Si je vous comprends bien, maître Crispin Mukendi, le chef de l'État avait demandé à la CENI...
Pas le chef de l'État, je parle de procureur général près de la Cour de cassation.
Okay.
Pas une lettre demandant à la CENI de sursoir à l'organisation des élections, parce que, à ce niveau, en tant que maître de l'action publique, il avait des éléments suffisants pour donc démontrant effectivement que la corruption existe entre les électeurs et les candidats à l'élection qui devait s'organiser. Mais là, donc, la CENI n'a pas tempéré, la CENI a convoqué l'élection. C'est à la suite de l'organisation de cette élection qu'on va constater qu'effectivement, c'est que la crainte du PG près la Cour de cassation était réelle. Donc, on devait arrêter qu'il poursuive ses enquêtes pour arriver à démontrer si les dénonciations étaient fondées ou pas. C'est comme ça qu'à la suite de cette élection, il s'est avéré que les gens ou les personnes, ou mieux, nos députés qui devaient élire, nos sénateurs, qui composent une institution, une chambre aussi précieuse, importante pour la République, se sont fait corrompre. Et les dénonciations sont venues de partout, pas seulement de l'IDPS, mon parti.
Et c'est pourquoi le chef de l'État a pris cette décision de sursoir à l'installation
des sénateurs. Ce n'est pas le chef de l'État, j'en viens, madame.
Ce
n'est pas le chef de l'État qui a pris la mesure. On dit que c'est une mesure interinstitutionnelle. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que je vais vous donner le fondement légal de ce qui a été fait.
On vous écoute.
Parce que j'ai parlé des contextes comme premier point. Et deuxième point, le fondement de cette réunion. Madame, notre constitution dit à son article 69, il dit, on qualifie le chef de l'État comme étant le garant des bons fonctionnements des gestions de la République. Ou les fonctionnements réguliers des gestions de la République. Au regard des éléments que le chef de l'État a eu, au regard des dénonciations venant de part et d'autre, même de nos amis du FCC. Quelqu'un, pas de moins de le porte-parole de la majorité, a dénoncé par une lettre où il cite des noms et des noms des responsables des institutions au niveau des provinces. Il a cité, il a parlé sans parler des noms. Il a parlé d'un vice-président de l'Assemblée provinciale, d'un questeur. Madame, en dehors de lui, d'autres partenaires politiques, candidats ont dénoncé en disant, moi par exemple, tel est venu vers moi pour me dire...
Tout ça, vous avez déjà dit, maître Crispin.
Là, c'est dans le contexte, là, c'est après élection. Ce que j'ai dit avant, ça, c'est donc après élection. Les gens qui ont été contactés, qui ont versé leur argent, ils disent, moi, j'ai donné 10 000 à tel, 15 000 à tel, après, je n'ai pas été élu. Lorsque j'ai cherché à savoir au Mehdi, écoutez, ce que toi tu as donné, ce n'était pas ce que moi j'attendais. Quelqu'un est venu, il a donné plus que ce que tu as donné.
Alors, imaginez-vous, nous sommes dans les fondements légaux.
Dans ces contextes-là, dans ce contexte-là, et s'effondrant sur l'article 69 de la Constitution, le chef de l'État, étant que garant des bons fonctionnements des institutions, a convoqué toutes les institutions. Ici, on dit c'est toutes les institutions, s'il vous plaît, qui ont pris part à cette réunion. Même la Cour constitutionnelle. Même la Cour constitutionnelle, madame.
Et tout le monde était d'accord par rapport...
Mais le communiqué final a été lu. Je dis bien, même la haute cour de notre pays. Parce que au-dessus d'elle, il n'y a personne. Même la Cour constitutionnelle a assisté à cette réunion. Parce que les faits sont tellement graves qu'on ne pouvait pas le laisser passer. Et si le chef de l'État n'avait pas convoqué cette réunion, il serait poursuivi pour absence coupable.
Merci, Maître Crispin Mukendi. On vous redonne la parole tout à l'heure. Docteur Didi Malanra, député national et cadre du FCC. Vous êtes secrétaire national du PPRD, chargé du processus électoral et des relations avec les institutions d'appui à la démocratie. Le FCC rejette les décisions du président de la République. Pourquoi? Vous avez suivi Maître Crispin Mukendi qui estime que le chef de l'État a raison, quoi.
Merci beaucoup, madame. Je salue mon co-débatteur du jour, maître Crispin Mukendi. Il a parlé du contexte. Laissez-moi retracer le contexte. En date du 15 mars 2019, les assemblées provinciales ont procédé à l'élection des sénateurs, conformément au calendrier fixé par la CENI. Le samedi 16 mars 2019, des militants de l'UDPS ont élevé leur protestation du fait que leur parti n'ait pas réussi à obtenir un seul siège au Sénat, alors qu'ils avaient suffisamment de députés provinciaux, notamment dans la ville-province de Kinshasa, où ils avaient 12 députés, et dans la province du Kasaï oriental, où ils n'ont pas eu de députés. Ils s'en sont pris violemment aux forces de l'ordre et aux permanences du PPRD, mon parti, notamment la permanence de la Founa à Kinshasa, sur l'avenue Saint-Louis. Madame, à Mbujimaï, il y a eu pire que ça. Ils ont pillé, je parle des combattants ou des membres de l'UDPS, ils ont pillé, brûlé, saccagé et même tué. Ils ont tué un policier dans l'exercice de ses fonctions régaliennes, lui révolues par l'État congolais. Et ces policiers, c'est un capitaine, un père de famille, du nom de M. Bampenga Chelenge Chambouy, qui a été tué, madame. C'est à la suite de ces incidents malheureux que les instances dirigeantes de l'UDPS ont formulé les allégations de corruption, déclaré leur intention de remettre en cause le processus électoral et d'obtenir les reports des scrutins des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces et de bloquer, de stopper l'installation du nouveau Sénat. C'est très grave, madame. Mais voici les comptes. C'est ça, le contexte.
Oui, mais monsieur Malanra, on a vu aussi des cadres du FCC dénoncer cette corruption au niveau des assemblées provinciales.
Nous condamnons vivement et avec la toute dernière énergie la corruption sur toutes ses formes. Nous sommes tout à fait d'accord que le président de la République et toutes les autres instances compétentes, que toutes ces instances-là doivent lutter âprement contre la corruption. Mais nous disons ceci, que ce qui a été fait par l'interinstitutionnel est informel. Parce que cette structure n'est qu'un cadre de concertation, un cadre d'échange qui n'a pas qualité de prendre des décisions. Mon co-débatteur parle de l'article 69 comme si cet article donnait au président de la République comme garant, donc le fait qu'il soit au-dessus même de la Constitution. Voici ce que dit l'article 69 de la Constitution, madame. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Le respect de la Constitution dit ceci, madame, qu'il y a séparation de pouvoir, que le report de du calendrier électoral revient comme attribution exclusive à la CENI.
Ce n'est pas l'interinstitutionnel qui n'a même pas une personnalité juridique, madame. Ce qui est fait au sommet de l'État, c'est de la cacophonie.
Il est quand même le garant du bon fonctionnement des institutions.
Il est garant.
On constate que les sénateurs, il y a eu beaucoup des cas de corruption à l'élection des sénateurs. Est-ce que ce n'est pas normal que le chef puisse intervenir? On ne peut quand même pas avoir un Sénat avec des sénateurs corrompus qui se retrouvent là-bas.
La corruption est une infraction du droit commun congolais, madame. Et moi, j'ai suivi avec une attention soutenue l'annonce des conclusions de la réunion institutionnelle, madame, convoquée le lundi 18 mars 2019. Quant à la corruption, il n'y a que les instances judiciaires, madame, qui doivent arrêter ces infractions-là, qui doivent déterminer ces infractions. Et ces infractions, et toutes ces personnes, aujourd'hui, ils bénéficient encore une fois de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Donc, ce sont les instances judiciaires qui doivent tabler sur la corruption. C'est pas n'importe qui. Et l'interinstitutionnel ne devait même pas arrêter la bonne marche des institutions. C'est très grave au sommet de l'État, madame. Il y a la justice qui est là. Ce que l'interinstitutionnel devait faire, c'est de remettre à chaque institution, à chaque structure, ses compétences. La justice devait tabler sur la corruption, déterminer les faits. Ceux qui étaient incriminés doivent amener des preuves et la justice devait frapper ceux qui ont enfreint à la loi. Et l'Assemblée nationale, madame, je ne parle même pas de l'Assemblée, je parle du Parlement. Nous avons un Parlement bicaméral, nous avons l'Assemblée basse et la Chambre haute. Mais il n'y a plus de Chambre haute. Et même dans l'interinstitutionnel, vous savez, qui a été invité, c'est monsieur Kengo, l'honorable Kengo Wadondo, qui appartient à l'ancienne structure du Sénat qui a été conviée à la réunion. C'est pas normal, alors que nous, comme députés, nous siégeons déjà. Et d'ailleurs, la loi dit ceci, madame, que c'est l'article 114 de la Constitution qui dit que au 15e jour, à dater de la publication des résultats par la Commission électorale nationale indépendante, madame, le Sénat doit être invité, doit être convoqué à siéger.
C'est pourquoi vous avez demandé à vos sénateurs élus de venir le 30 à la plénière.
Absolument.
Il n'y a pas de bras de fer. Avec le président.
Nous n'allons pas engager le bras de fer avec son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Tshilombo, mais nous l'aidons parce que nous pensons vraiment qu'il est très très mal entouré et que ce qu'il est en train de faire maintenant au sommet de l'État, c'est très grave, c'est la dérive totalitaire.
Merci, docteur Didi Manara, professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule politologique en Afrique centrale. Professeur, comment vous analysez ces différentes réactions des plateformes, certaines qui soutiennent, qui saluent la décision du chef de l'État et d'autres qui la rejettent carrément?
Bon, oui, merci madame, bonsoir aux auditeurs. Donc, il faut bien se rendre compte que chacun va essayer de tirer la couverture à soi en fonction du contexte. Alors, mais il faut bien remettre les choses dans le cadre général. Mais il faut bien se dire que ça fait quand même plusieurs années, ou bien plusieurs semaines, même plusieurs mois, qu'on est en train d'aller de manière générale en RDC vers un état de non-droit où plus rien, on ne respecte plus rien, où on fait ce qu'on veut en fonction de ses intérêts et en fonction de ce que l'on a envie de faire. Il faut bien se rappeler que ça fait quand même plusieurs fois que l'on a des décisions qui ne respectent même pas la Constitution, qui ne respectent pas un minimum de droits. Je ne veux plus revenir sur les anciens débats, notamment les élections n'ont pas eu lieu en 2016, c'est normal. On les a organisées beaucoup plus tard, c'est normal. Les élections n'ont pas prévu, on a eu un vote électronique en RDC l'année passée. C'est normal, alors que le vote électronique est encore anticonstitutionnel et illégal, on va dire c'est normal. Les résultats des élections sont publiés sans PV ni compilation des résultats. Ben, c'est normal, tout ça, ça viole son disposition qui viole la Constitution. Beni, Boutembo, Yumbi n'ont pas été aux élections, c'est normal. Et alors, pourquoi pas alors ceux qui sont arrivés maintenant au pouvoir et qui prennent aussi la même chose, ça veut dire qu'ils prennent des libertés par rapport aux textes qui existent, non seulement la Constitution, mais tous les autres textes. Donc ça devient tout à fait normal de pouvoir violer la Constitution, violer les textes et on gère l'État d'une façon, on va dire, en fonction de ses envies et en fonction aussi de ses intérêts et de ses objectifs personnels. Dans le cas présent, ce qui interpelle, je dois avouer, ce qui interpelle, c'est que la décision ici avait déjà été prise à partir de samedi, suite à la réunion qui a eu lieu entre les chefs de l'État et les militants de l'UNC et les militants de l'UDPS, qui sont venus interpeller le chef de l'État et qui interpellent le chef de l'État. Et sur base de l'interpellation de ces militants, pas des militants des autres partis, notamment les militants de la Mouka, je n'ai pas vu les militants de la Mouka manifester, je n'ai pas vu les militants du FCC manifester, etc. Et donc c'est sur base déjà dès le lendemain qu'il avait décidé de pouvoir convoquer cette réunion en vue de pouvoir aborder ces différentes questions. Lorsque l'on voit ça, ça veut dire qu'en ce moment, il a réagi en fonction de ce que lui appelle sa base, c'est-à-dire les militants de Kerch, pour pouvoir intervenir sur le plan institutionnel. Ça veut dire que de manière claire, les intérêts de son parti, il les ramène de manière claire sur l'espace étatique, et cela pose véritablement un grand problème. Et non seulement ça pose un grand problème, puisqu'il prend une décision, puisque finalement ils ont dit dans le communiqué que j'ai lu, c'est plutôt le chef de l'État qui a pris cette décision, et il n'a pas, ni l'autorité, ni le droit de pouvoir prendre les décisions qu'il a prises, puisque les dispositions constitutionnelles et légales sont très claires à ce sujet. Concernant la non-installation du Sénat, c'est la Constitution qui l'oblige. Sa décision ne peut pas être au-dessus de la Constitution. Le calendrier électoral n'est pas fait par l'institutionnel. Le calendrier électoral, il est fait par la CENI. Ce qu'il aurait dû faire, c'est demander justement à la CENI de pouvoir réunir sa plénière, de pouvoir modifier directement son calendrier électoral. C'est tout à fait possible. Légalement, la CENI peut être saisi par le chef de l'État qui peut demander à modifier l'agenda, le calendrier électoral, ça serait dans la légalité. Et ici, il prend la responsabilité de le faire sans que la CENI n'ait, qu'il soit l'organe qui est habilité à pouvoir le faire. Pire encore, madame, sur la question même déliée à l'installation du Sénat, de dire on n'installe pas le Sénat, mais la décision, elle est donnée. Elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à la Constitution qui oblige justement le secrétaire général du Sénat à pouvoir convoquer la session extraordinaire, ou bien, c'est-à-dire que le secrétaire général du Sénat ne va rien faire d'ici le 30 mars. Là aussi, ça pose véritablement beaucoup de questions. Je pense ici que ceci est la conséquence aussi de ce qu'on est en train d'assister, c'est-à-dire, de manière claire, aussi une espèce de le président de la République qui est sous pression, notamment par rapport à l'opinion publique congolaise, cette opinion publique congolaise qui veut des changements, qui veut autre chose, et d'autre part sa coalition qu'il a avec le FCC, et cette coalition qui veut continuer à pouvoir exercer le pouvoir de la manière dont ils l'ont toujours fait, c'est-à-dire en contrôlant les parlements, en contrôlant le gouvernement, en contrôlant les provinces, en contrôlant les structures de sécurité, et là il se retrouve bloqué entre ces deux tendances chaque fois qu'il va avoir les pressions qui vont venir de la base, comme lui-même il le dit, puisque la base est à la base de tout. Et donc, comme il dit que c'est la base qui il suit la base, et donc à chaque fois qu'il va y avoir la base qui va réagir, il va se heurter aux intérêts du FCC. Et on va arriver à ce jeu-là, et ce jeu, madame, va arriver à un blocage des institutions. Si on arrive à un blocage des institutions, je vous mets au défi que le Congo a déjà connu ce genre de situation. On a connu ce genre de situation en 1960, en septembre 1960. On a connu ce genre de situation en novembre 1965. On a connu ce genre de situation en mois de septembre-octobre 1996. Et les conséquences par rapport à des blocages d'institutions, ça a été quoi? Ça a été à un moment donné un acteur extérieur qui trouve la situation inadmissible. Et va décider à un moment donné de prendre et de remettre de l'ordre. On a connu ça en 60, on le connaîtra en 1965 et on l'a connu en 1996.
Selon vous, professeur, on s'achemine vers une crise politique?
Non seulement on s'achemine vers une crise politique, mais aussi on peut s'acheminer véritablement vers un coup d'État, même vers un coup d'État pour essayer de remettre de l'ordre dans ce capharnaüm où plus personne ne comprend plus ce qui se passe. On ne respecte même plus les constitutions, on ne respecte même plus rien. Et alors, en ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? La population, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rester en train de continuer à subir, à voir ce qui est en train de se passer, et au niveau de la présidence, et au niveau du FCC, au niveau des CACH, et au niveau des différentes institutions, avec l'élection des sénateurs qui est venue encore rajouter du cafouillage dans tout ce qu'a fait Naom et plus personne ne retrouve ses poussins. Alors, il ne serait pas étonnant que d'ici quelques semaines, que l'on ait l'intervention de quelqu'un de l'extérieur, soit l'armée qui peut reprendre les choses en main, soit encore une puissance étrangère qui pourrait à nouveau revenir à la case.
Merci, professeur Bob Kabamba, maître Crispin Mukendi. Avant de réagir aux propos du prof Kabamba et de docteur Didi Manara, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Bon, moi, c'est maître Laurent Otsumbe. J'appelle à partir de Kinshasa. En fait, pour moi, la démocratie, c'est le fait de la soumission de la politique au droit. Les chefs d'État doivent s'en tenir aux prescrits de notre constitution, c'est-à-dire la loi fondamentale, laquelle fait de lui le garant de son respect. Il n'y a aucune disposition de la constitution qui, de façon personnelle ou en concertation avec d'autres institutions, donc le chef de l'État, le pouvoir qui s'octroie, le soit de pouvoir retarder l'installation du Sénat et également reporter l'élection des gouverneurs. Donc, il est tenu à revenir au bon sentiment qui nous crée une crise politique artificielle en ce moment. D'ailleurs, suivant la même constitution, le chef de l'État n'a le statut que par voie d'ordonnance. Donc, je ne vois pas par quelle voie il peut, par un communiqué interinstitutionnel, se prévaloir des prérogatives que la constitution ne lui octroie pas.
Maître Christophe Mukendi, vous avez suivi Maître Laurent Otsumbe, vous avez suivi le propos du docteur Didi Manara et du professeur Bob Kabamba.
Oui, je vais ramasser toutes les réactions. Je commence par la première, celle de mon aîné, honorable docteur
Didi Manara.
Didi Manara. Il a lu la disposition de la constitution que j'ai évoquée tout à l'heure ici, mais il ne l'a pas fini. Il s'est juste limité à un paragraphe. L'autre, il a laissé. Ici, je suis en train de débattre avec celui qui édicte nos lois. Madame, j'ai posé les contextes dans lesquels la réunion interinstitutionnelle s'est tenue. Dans un contexte de corruption, s'il faut le rappeler. Décrié par les militants de l'UDPS. Par tout le monde, toute la classe politique, de tous bords.
Mais le président a réagi en fonction de sa base.
J'en arrive.
S'il n'avait pas interpellé par sa base, est-ce qu'il aurait pris cette décision?
En répondant, je vais répondre aussi à M. Kabamba. Parce qu'il a dit que le président a agi à la suite d'une réunion. Tenu samedi, non. Il faut quand même respecter les gens. Avant que le président de la République n'agisse, le procureur général, qui est le patron de l'action publique, a demandé, sans pression, il a demandé qu'on suspende l'organisation des élections. Sans influence de qui que ce soit. À son temps, il a dit arrêtez, n'organisez pas les élections. J'ai les éléments suffisants qui démontrent qu'il y a la corruption qui est planifiée. Tout le monde en parlait. Le président de la République, dans un voyage en Afrique, recevant la diaspora congolaise, il a martelé là-dessus, il a même proposé qu'on revienne sur le mode, ce mode de scrutin. Parce que déjà, il était saisi de ces faits-là. Je citais des personnalités pas des moindres.
Oui, hein? Vous avez déjà dit ça, maître Christophe.
Oui, mais c'est pour dire, écoutez, parce qu'il ne faut pas le fait, on ne change pas les faits. Les faits sont têtus.
Pourquoi l'avoir pas saisi? Pourquoi le chef de l'État l'a pas saisi, le PGR l'a pas saisi, la CENI, pour demander à ce qu'on puisse...
J'en arrive, madame. Suite à tout ça, le chef de l'État invite d'autres institutions. Le chef de l'État n'a pas pris la décision seul. J'ai entendu les confrères qui a si bien dit que le chef de l'État statue par l'ordonnance. Effectivement. Voilà ce qui démontre effectivement que le chef de l'État, en tant que garant des bonnes fonctions des institutions, n'a pas agi seul.
Il a pas convoqué, eu d'ordonnance, on a vu un communiqué, lui, à la télévision, c'est signé par le directeur des cabinets.
Mais c'est un communiqué qui sanctionne tout ce qui a été pris comme résolution par toutes les institutions de la République. Ce n'est pas quand on dit une réunion formelle, mais madame, dans ce pays, en 2016, il y a eu un club qui s'est trouvé quelque part, qui a reporté des élections. Ce n'était pas une institution de la République.
Est-ce que c'est parce que cela,
non,
en mal agi,
non,
que
non,
vous
non,
devez faire
non,
la
non,
même
non,
chose?
Non, 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 je ne dis pas ça. Je ne vais pas rebondir que ça, madame. On a vu dans ce pays, ce sont des cas que nous condamnons. Et lui, des pestes ne fera pas la même chose. Voilà pourquoi quand on dit, donc c'est tout ce qu'il y a comme gesticulation, c'est la mauve. C'est comme on dit, c'est lui qui ça sent mauvais. C'est mouche. La corruption, c'est un fléau. Ce n'est pas mon aîné ici, à ma gauche, qui va me contredire. C'est un fléau. Il doit être combattu jusqu'à ce que nous allons l'éradiquer. Comment vous pouvez vous imaginer qu'on installe une institution comme cette chambre-là, avec des sénateurs corrompus? Il s'est passé ici qu'un candidat a été invalidé par la CENI parce qu'il est condamné pour corruption. Et la décision a été entérinée par notre haute juridiction. Comment voulez-vous aujourd'hui qu'on puisse accepter qu'on installe des sénateurs corrompus?
Merci, maître Crispin.
C'est une moralité.
Docteur Didi Manara, on va prendre aussi pour vous cette réaction.
Moi, c'est Ekima Koko. J'appelle depuis Bukavu. La décision prise par le président de la République a sa raison d'être du moment que ce n'est pas une décision annulant les élections sénatoriales. Elle permet aux partis, aux candidats, de passer en revue les questions posées avant, pendant et après les élections sénatoriales. S'il y a des individus dont la culpabilité sera établie, les mécanismes de levée des immunités peuvent être déclenchés et poursuivre le cours normal de la procédure. C'est juste une mesure conservatoire.
Docteur Didi Manara.
Non, merci beaucoup. J'aimerais dire à mon co-débatteur de tout à l'heure qu'il doit respecter les honorables sénateurs. Je vous assure, madame, pour se faire élire, ce n'est pas une moindre affaire. C'est très très compliqué. Vous avez entendu vous-même que ce soit maître Laurent Otumbe, que ce soit le professeur Kabamba, ils m'ont rejoint. Je persiste et signe, madame, que la Constitution confère à la seule Commission électorale nationale indépendante la compétence d'organiser les élections, de fixer le calendrier. C'est une compétence exclusive à la CENI. Il n'appartient pas à une quelconque réunion.
Vous avez fait ça, vous, du FCC?
Non, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais, au cours d'une réunion institutionnelle, interinstitutionnelle, de prendre une décision pour dicter à la CENI ou de dire quoi que ce soit pour reporter les élections.
Le report des élections,
jamais.
En 2016, le report des élections à Yumbi.
C'est la CENI. C'est la CENI qui s'est prononcée. C'est la CENI. Ça n'a jamais été.
Vous êtes sûr qu'il n'y avait pas eu une réunion, moi?
C'est la CENI, madame. C'est la CENI qui s'est prononcé, qui a fixé le calendrier. Nous sommes respectueux des institutions derrière notre président, Joseph Kabila Kabange, qui est l'autorité morale du FCC. Nous sommes vraiment respectueux de la Constitution. Nous, le FCC, derrière Joseph Kabila, nous n'avons jamais interféré aux prérogatives constitutionnelles des institutions de ce pays. Ce qui est fait, madame, c'est une violation grave de nos lois et de la Constitution. Il ne revient qu'à la CENI. C'est la CENI seule qui est compétente pour établir un calendrier, établir le report d'un calendrier, de fixer les règles du jeu. Voilà. Donc ce qui est fait là est une violation flagrante. Je crois que je viens d'être rejoint par le professeur Kabamba ainsi que maître Laurent tout à l'heure. Vous les avez entendus. Madame, le pays...
Vous condamnez le président de violer la Constitution, mais on a dénoncé ça aussi lorsque vous étiez aux affaires, lorsque le président Joseph Kabila, président honoraire, était aux affaires.
Je crois que restons dans le contexte.
Vous avez violé la Constitution.
Madame, je vous rappelle, nous sommes dans un contexte bien déterminé, des reports des élections, de blocage de toute une institution de la République. La deuxième chambre du Sénat, la deuxième chambre du Parlement, qui est le Sénat, la chambre haute, on veut la bloquer sciemment parce que quelques jeunes délimités ont marché, ont brûlé, quelques jeunes des Mbujimayi ont tué, et cette guerre interne à un parti politique qui est l'UDPS, c'est une guerre des palais, évidemment. Eh bien, après, donc au-delà de cette guerre, le président de la République veut prendre des décisions sur toute la nation. Mais ça, c'est incroyable pour un pays. Voilà pourquoi le FCC, nous en appelons vraiment au respect strict des lois et de la constitution de ce pays. S'il y a corruption, madame, au jour d'aujourd'hui, on ne peut parler de corruption que si c'est établi par les instances judiciaires compétentes. On ne peut pas dire comme ça d'emblée qu'il y a eu corruption alors qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas eu de preuves, la culpabilité n'a jamais été établie. C'est de l'aléatoire. C'est que nous voulons, nous, au niveau du FCC, qu'on traite tous ces cas au cas par cas. Il y a des députés qui ont réellement corrompu. Il y a d'autres députés qui sont passés de manière loyale. Je vous assure. Mais est-ce qu'arriver jusqu'à bloquer toute une institution, ça c'est incroyable. Et ça, nous ne l'avons pas accepté. Voilà pourquoi, au niveau du FCC, au niveau du PPRD qui est mon parti, nous avons dit qu'au 30 de ce mois, le Sénat doit être convoqué et la session extraordinaire doit être tenue.
C'est là que
nous devons respecter la Constitution, madame. La Constitution est au-dessus de tout le monde. Le président Joseph Kabila Kabange a dit qu'il respectait la Constitution. Il a respecté la Constitution. La passation pacifique et aisée du pouvoir a eu lieu. Les autres ne doivent que suivre, emboîter ses pas. Madame.
Je vais vous redonner la parole, docteur Didi Malara. Professeur Bob Kabamba, on a aussi une réaction pour vous.
Docteur Albert Tambola, depuis l'Issala. La lecture que nous pouvons faire face aux réactions de ces différents partis et regroupements politiques est que l'intérêt suprême de la nation n'est pas à toutes ces réactions, si ce n'est que leurs intérêts mesquins, car les perdants au sénatorial prônent l'annulation pure et simple de ces élections, tandis que les gagnants n'envisagent que l'installation des nouveaux sénateurs élus. Reporter les élections des gouverneurs des provinces par peur de soi-disant corruption n'a pas d'autant plus que ces reports immédiats ne changera pas l'attitude corruptible des députés provinciaux, car tout dépend de la mentalité des grands électeurs, dans ce sens que s'ils sont corruptibles, ils les resteront jusqu'à la fin de leur existence sur cette terre des humains.
Professeur Bob Kabamba.
Merci. En tout cas, l'auditeur a tout à fait raison. Même mon co-débatteur au cadre du PPRD a la mémoire courte en disant des violations de constitution. Je dois lui rappeler, lui refaire la liste de toutes les violations de la constitution relevant du chef du PPRD. Je pense que je n'en nommerai pas, l'émission ne sera pas suffisante pour terminer cette lecture. Et en même temps, puisqu'il a la lecture par rapport simplement à ce qu'ils arrangent eux dans le contexte actuel, et ça ne les est pas privés quand ils étaient encore aux affaires de pouvoir aussi jouer avec la constitution à leur guise et à leur aise. Et non seulement sur la question, donc, l'auditeur, il a tout à fait raison que ça ne va pas mettre fin à la corruption, le fait de reporter. Je pense tout simplement, il n'est pas encore tard pour pouvoir reprendre les choses correctement. C'est-à-dire que si on veut suspendre l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, ok, la CENI peut demain, après-demain, se réunir en plénière et pouvoir décider et modifier le calendrier électoral. Si on ne veut pas que le Sénat soit installé au 30 mars, alors le procureur général de la République peut, pour crainte de troubles de l'ordre public, peut écrire au Sénat en disant, écoutez, on ne peut pas installer le Sénat actuellement puisqu'il y a risque de troubles publics et que l'ordre public pourrait être menacé. Et si l'ordre public est menacé, on peut reporter l'installation du Sénat. Il y a des dispositions sous lesquelles la majorité, le président actuel, pouvait jouer pour pouvoir être dans un état de droit. Mais je pense qu'ici, il a voulu montrer, non pas par rapport à l'état de droit, mais simplement répondre par rapport donc à la pression qu'il a eue de son parti et de ses militants. Et donc, même si on change, même si on reporte, je vois mal que c'est ça qui va changer la corruption. La corruption sera toujours là.
même pour les députés nationaux, les députés provinciaux, il y a eu des rapports qui ont été faits aussi bien par la société civile que par toute une série d'organisations qui ont dénoncé les faits de corruption qui ont eu lieu au moment de ces votes. Et donc c'est un état général que l'on connaît au niveau du Congo. Ce n'est pas uniquement dans les milieux électoraux. Il y a dans tous les milieux des cas de corruption que l'on voit tous les jours et pour lesquels il y a une certaine impunité qu'on remarque à RDC. Et que la difficulté et aussi pour les changements de mentalité, comme le dit l'auditeur, de mon point de vue, passe par la fin justement de cette impunité, passe par la fin de ces cas de corruption que l'on connaît, que l'on voit tous les jours et pour lesquels on accepte. Et par moment même, ça devient même une vertu de pouvoir être corrupteur, voire corrompu. J'ai encore lu il n'y a pas longtemps, quelque part, où un député s'est vanté d'avoir été payé quand même suffisamment cher pour rembourser ses frais de campagne par rapport à ses élections de sénateur et qu'il attend l'élection de gouverneur pour pouvoir encore faire du bénéfice par rapport à ce qu'il a investi comme frais de campagne pour être député provincial. Malheureusement, c'est ça le fait. Alors dans ce cas-là, si on ne saisit pas, s'il n'y a pas la justice qui fonctionne, là, nous allons tourner un rond et on va revenir encore pour une autre émission où nous allons encore réaborder les mêmes questions et le cas de corruption ne sera pas résolu.
Merci, professeur. Maître Crispin Mukendi, nous tendons vers la fin de notre émission. On va vous demander d'être concis. Vous avez suivi le professeur Bob Kamamba qui propose des pistes de solutions pour que le président reste dans la légalité. Comment vous réagissez à ça?
Merci, madame. Le président est resté légaliste. Et heureusement que pour ce bouquin, on va revenir là-dessus. Lorsqu'il parle de que pour éviter des troubles ou troubles de l'ordre public, le procureur général près la Cour de cassation peut demander qu'on n'installe pas le Sénat. Mais nous sommes dedans. Lorsqu'il y a la commission de l'infraction, il y a troubles de l'ordre public. Et ce n'est pas n'importe quelle infraction. Il dit ici qu'un candidat a été écarté parce qu'il était condamné pour corruption. Vous comprenez? Donc la réunion interinstitutionnelle qui a été convoquée par le chef de l'État a pris des résolutions. Le procureur général, près de la Cour de cassation, était présent et il a le pouvoir de déclencher et de continuer les enquêtes comme il avait sollicité jusqu'au bout que les coupables soient condamné.
Et la date, et, s'il la vous date plaît, sera ici, fixée par le, qui pour l'élection des gouverneurs, la nouvelle date.
La CENI était là, le président de la CENI et le vice-président étaient présents lors de la tenue de cette réunion. Lorsque ces mesures ont été prises, ils étaient là. Il revient à eux de, en concertation avec la classe politique, de pouvoir convoquer une réunion et annoncer de nouvelles dates. Mais il faut qu'on arrive à établir des responsabilités. Et ici, j'ai persisté des signes que le chef de l'État n'a pas violé la Constitution ici à cette table. On ne m'a pas cité une seule disposition constitutionnelle que le chef de l'État
merci,
a violée.
Merci, maître Crispin Mukendi. Le docteur Didi Manara, votre conclusion.
Non, merci beaucoup, madame. J'aimerais dire ici que j'en appelle à l'UDPS ainsi qu'à toutes les structures de ce parti, y compris à la présidence de la République, de se ressaisir. Parce que au 15 mars, le Sénat doit être convoqué. Mais je voudrais dire au professeur Kamamba.
Au 30 mars, vous voulez dire?
Au 30 mars, bien sûr, au 30 mars. J'aimerais dire que il a présenté la face cachée des élections qui viennent de se passer. Mais je viens de lui dire que ceci, que la souveraineté du pays, de notre pays, a été respecté. Vous voyez, nous avons seuls organisé ces élections du point de vue financier, logistique, structurel, et ça, il n'en a pas parlé. Policier vient d'être tué en Bougimane.
Vous l'avez
et
déjà
le professeur
dit, docteur
n'en a pas parlé.
Manara, vous l'avez déjà dit. Merci beaucoup, professeur. Votre conclusion en quelques secondes.
Rapidement, le Congo est dans une phase très difficile et dans une phase délicate. Il est important de pouvoir éviter de pouvoir revenir dans la stabilité. Et pour ne pas revenir dans la stabilité, j'ai donné les pistes tout à l'heure et j'espère bien que les différentes autorités vont se réunir assez rapidement pour remettre de l'ordre au niveau des textes et au niveau du droit.
Merci, professeur. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.